Donc dans cette instruction, si vous voulez bien, on va traiter de la grâce, cette réalité dans notre vie de chrétien. Donc vous voyez, chaque fois qu'on aborde un sujet particulier, ce qui est bien, c'est de consulter le catéchisme. L'Église nous enseigne tout ce que nous devons croire, tout ce que nous devons faire pour être sauvés. Donc le catéchisme est particulièrement pédagogique, c'est-à-dire il nous enseigne des choses des fois qui en elles-mêmes sont très complexes, mais d'une manière très abordable, très accessible. Ouais, le catéchisme, sous des formules simples, éclaire notre intelligence. Ouais, l'homme a besoin de comprendre, il a besoin de s'expliquer. Pour agir librement, j'ai d'abord besoin d'avoir cette lumière sur la réalité qui se présente à moi. Alors, si vous lisez le catéchisme, eh bien, il vous donne la définition. La grâce de Dieu est un don intérieur surnaturel, un don, donc quelque chose de gratuit, hein, que le bon Dieu nous donne très libéralement, avec beaucoup de prodigalité, etc. C'est un don intérieur. Oui, il y a des gens qui ont des dons extérieurs, ça peut être le don de la santé, le don de la beauté, il y a des gens qui ont des charmes extérieurs, etc. Voilà. Il y a des dons, des gens qui ont un don d'intelligence, des gens vraiment intellectuellement hyper doués. Ouais, vous avez des gens qui ont le don du commandement, du gouvernement, etc. Voilà. Ben là, c'est un don intérieur, c'est-à-dire qu'il ne se voit pas, intérieur. Et vous voyez, il faut apprécier. Ouais, souvent, même nous chrétiens, on donne beaucoup d'importance à notre paraître. Ouais, les diplômes qu'on a, le métier qu'on exerce, ce qui se voit, ouais, l'apparence. Et ce n'est pourtant pas les dons les plus beaux. Les dons intérieurs, et surtout surnaturels. Surnaturels. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire? Qui nous sont donnés, donc, sans aucun mérite de notre part. Hein, la grâce est un don intérieur surnaturel qui nous est donné sans aucun mérite de notre part, mais par les mérites de Jésus-Christ. Mérites de Jésus-Christ. Voilà. Il nous a mérités. En vue de la vie éternelle. Oui, en vue de, voilà pourquoi c'est un don surnaturel. Ça nous prépare au salut. Vous voyez, les dons naturels qu'on a, d'avoir des compétences pour un métier, etc., c'est des dons très appréciables. Il faut remercier le bon Dieu, voyez, d'avoir justement un métier en main, d'avoir des aptitudes, des compétences, etc. Mais d'ordinaire, c'est pour réussir sa vie ici-bas. Et ce n'est pas rien, c'est important d'avoir une profession, d'exercer un métier, etc. Voyez. Mais c'est pour ici-bas. Ceux qui n'ont aucune religion ont ces dons aussi, et par lesquels ils réussissent. Tandis que là, la grâce est quelque chose qui va m'aider à faire mon salut. C'est un don intérieur qui ne se voit pas, et qui va être là chaque fois, justement, ouais, pour opérer mon salut, en vue de ma vie éternelle. Ouais. Alors ensuite, le catéchisme nous dit qu'il y a trois sortes de grâces. Ouais. Il y a la grâce habituelle, sanctifiante, hein, il nous dit. On divise la grâce en grâce sanctifiante, habituelle, actuelle, et puis la grâce sacramentelle, hein, donc la grâce habituelle, sacramentelle, actuelle. Ouais, donc, vous voyez, ce don intérieur que Dieu va m'accorder pour mon salut, il va s'exercer sur moi, il va influer sur moi, oui, sous trois formes. D'abord, une forme habituelle, c'est-à-dire, ça me donne la vie de la grâce, la vie surnaturelle. La grâce qu'on appelle la grâce sanctifiante, c'est celle qui me donne vraiment la vie d'enfant de Dieu. De créature, oui, celui qui est baptisé n'est plus une créature, il devient enfant de Dieu. Il a une nouvelle vie. La vie naturelle, c'est la vie de créature, oui, et la vie surnaturelle. Donc, la grâce... Ouais, c'est d'abord une vie divine, c'est ce qu'on appelle la grâce sanctifiante ou la grâce habituelle. Ou la grâce habituelle, c'est ça, qui est d'habitude. Ensuite, vous avez la grâce actuelle. Donc vous voyez, il ne suffit pas d'avoir la vie, il faut pouvoir poser des actions. Vous voyez, une maman qui a son bébé, etc., elle est toute contente. Il vit, il est en bonne santé. Mais attention, au bout d'un moment, cet enfant, il ne suffit pas qu'il vive. Il va falloir qu'il agisse aussi. Hein? Si une maman, voilà, son enfant est toujours à 5 ans, il est toujours dans le berceau. Ah, c'est inquiétant, hein? Hein? À 15 ans, hein, voilà, il est encore dans le berceau. Hein? Mais il vit. Ah oui, mais madame, enfin. Hein? Il faudrait aussi qu'il ait un métier, qu'il ait une vie sociale, qu'il ait une vie familiale, etc. Votre enfant, il ne suffit pas de vivre. Il faut agir aussi. Alors, la grâce, c'est non seulement cette vie divine qui me rend enfant de Dieu, mais c'est cette capacité d'agir. Chaque fois que je vais poser une action, j'ai un secours qui, on appelle cette grâce actuelle, elle est antécédente, c'est-à-dire elle prévient l'action, elle me prépare à l'action, elle est concomitante. Au moment où je pose l'action, j'ai encore un secours qui va m'aider, et elle est subséquente, et après l'action, la grâce va continuer à intervenir en moi. C'est merveilleux. Chaque fois que je pose un acte, ouais, le bon Dieu intervient dans ma vie, en me donnant une inspiration, en me donnant un goût de l'effort, etc., le bon Dieu va intervenir avant l'action, pendant l'action, après l'action. Magnifique, la grâce actuelle. Alors, entre la grâce habituelle, qui est une vie, la vie divine, et la grâce actuelle, qui chope dans chacune de mes actions, va intervenir, qu'est-ce qu'ajoute la grâce sacramentelle? Ben, la grâce sacramentelle, c'est celle qui... Chaque fois que je suis dans un état particulier, je vais avoir besoin de tel secours. Vous voyez, dans la vie naturelle, quels sont les grands états, si vous voulez, les grandes étapes de ma vie? Eh bien, dans la vie naturelle, il y a d'abord la naissance, ensuite il y a le besoin de nourriture, ensuite il y a l'état de maladie et il y a la mort, ouais. Ensuite il y a les mises à l'épreuve, les devoirs à accomplir, etc. Donc, vous voyez, dans la vie naturelle, vous avez différentes nécessités. Eh bien, la grâce, vous voyez, il y a cette correspondance de la grâce, vous voyez, par rapport à ces états. Vous voyez, dans ma vie d'enfant de Dieu, il y a la naissance, eh bien, c'est le baptême. Le baptême, vous voyez, dans le baptême, la grâce sacramentelle du baptême, c'est un droit que je vais avoir à vivre en vrai chrétien. Le baptême me fait enfant de Dieu et il me fait disciple de notre Seigneur Jésus-Christ. La grâce sacramentelle du baptême, vous voyez, c'est ce droit à avoir des secours dans chacune de mes actions pour que ma manière de vivre, ma manière d'agir corresponde à ma dignité d'enfant de Dieu. Il ne suffit pas d'avoir le titre d'enfant de Dieu, il faut vivre comme enfant de Dieu par tout mon agir, par toute mon action. Eh bien, la grâce sacramentelle va me donner, la grâce sacramentelle du baptême, la capacité, dans tout ce que je fais, de vivre en conformité avec cette dignité d'enfant de Dieu. Ensuite, la nourriture, eh bien, c'est la Sainte Eucharistie. Comme mon corps a besoin de nourriture pour survivre, il a besoin d'être sustenté, etc., eh bien, ma vie surnaturelle aussi, ma vie d'enfant de Dieu, elle va être entretenue par la Sainte Eucharistie. La Sainte Eucharistie, c'est cet aliment divin qui entretient en moi cette force vive, etc. Ensuite, il peut nous arriver d'être malade. Eh bien, justement, dans notre vie, il peut y avoir des péchés que nous commettons, etc. Cette vie d'enfant de Dieu s'affaiblit, se fragilise. Ouais. Eh bien, le sacrement de pénitence, la grâce sacramentelle, va me donner le remède, justement, le secours nécessaire pour lutter contre ces virus qui sont en moi, cet affaiblissement. La mort, c'est le grand passage, ouais, dans l'autre vie. Eh bien, le sacrement d'extrême onction va me permettre de vivre, ouais, cet état, ouais, d'agonisant, eh bien, sans me laisser décourager, etc. Et puis, si je veux fonder une famille, il y a un contrat avec mon conjoint, etc. Il y a un contrat, le sacrement, vous voyez, va élever le contrat, ouais, à quelque chose de divin. Dans le mariage, il y a le contrat de mariage et il y a le sacrement de mariage. Le sacrement élève le contrat, ouais, à un niveau divin. Et puis, dans une société, mais il faut des chefs, des gens qui prennent des responsabilités, etc. Une société ne peut pas marcher s'il n'y a pas une tête. Eh bien, de la même manière, l'Église, c'est une société, donc il faut, c'est la hiérarchie, c'est le pape, c'est les évêques, et les prêtres, vous voyez, sont les représentants des évêques. Donc, il y a le sacrement du sacerdoce. Donc, vous voyez, par rapport aux états. Alors, je voudrais vous parler aujourd'hui, donc, je pourrais très bien, vous voyez, vous parler de la grâce habituelle sanctifiante, la grâce sacramentelle dans chacun des sacrements, Je veux vous parler spécialement de la grâce actuelle aujourd'hui. La grâce actuelle, donc c'est ça le sujet. Je vous ai fait d'abord donner les notions générales sur la grâce en général, la définition de la grâce, ensuite la distinction entre les différentes grâces, et maintenant je focalise là-dessus, la grâce actuelle. C'est-à-dire que chaque fois que j'ai un acte à poser, un devoir à accomplir, une tentation à laquelle je dois résister, je suis pris en charge. Le bon Dieu me prend en charge. Avant la tentation, il l'a précédée en me donnant des avertissements, etc. Au moment où je livre la tentation, le combat contre la tentation, il va me donner des forces d'intelligence, etc. La tactique avec le démon, avance là, mon gars, bam, hein, et il va me donner des armes, il va me donner une stratégie, etc. Et puis après la tentation, la grâce, c'est, si j'ai résisté à la tentation, c'est l'action de grâce, etc. Si j'y ai succombé, le bon Dieu va m'aider à me relever. Ouais. Quoi qu'il se passe, de toute façon, je suis pris en charge. C'est magnifique. Alors, si vous prenez le catéchisme, c'est très important ça. Ouais, le catéchisme de Saint Pie X, catéchisme du Concile de Trente, il faut vraiment avoir ça. Ouais, ça vous donne toutes les notions claires, d'une manière un peu abstraite, d'une manière un peu didactique, mais c'est indispensable d'avoir des notions précises. Ma religion, je dois d'abord comprendre ma religion. Ouais, si on a des idées floues, etc., quand on va nous poser des objections, on est incapable de répondre. Et il y a beaucoup de jeunes, vous voyez, qui perdent la foi par manque d'instruction. Ils ont gardé, vous voyez, les notions de religion, du catéchisme, quand ils étaient en primaire. Mais vous comprenez que leur intelligence s'est beaucoup développée dans les domaines profanes, domaines scientifiques. C'est des jeunes qui se sont enrichis. Et au niveau de la religion, ils en sont restés à des notions élémentaires, enfantines. Alors quand il y a des objections qui leur sont présentées, ils n'ont pas de ressources. Et la religion leur paraît comme quelque chose de puéril, enfantin, vraiment. Ouais. Et ils abandonnent la religion. Donc il faut vraiment, vous voyez, que votre connaissance de la religion soit en correspondance avec votre niveau intellectuel, votre niveau de culture, etc. C'est indispensable, autrement vous ne tiendrez pas la route. Si vous n'êtes pas capable, vous voyez, de justifier ce à quoi vous croyez, ouais, à un moment donné, vous allez envoyer balader ça. Ça vous paraît vraiment, un folklore, c'est chez nous, c'est une sorte de... c'est une tradition familiale, etc. Mais j'y adhère pas personnellement, je vous parle bien fondé, etc. Donc la connaissance, et ça c'est le catéchisme. Alors, le catéchisme, qu'est-ce que c'est que la grâce actuelle? Je vous l'ai déjà un petit peu dit, je répète. Je dis plus précisément. La grâce actuelle est un don surnaturel, ça on l'a déjà vu, intérieur, qui illumine l'esprit, mon intelligence. Il faut comprendre la situation. Et qui me et fortifie ma volonté. Je vois d'abord clairement ce qui se passe. Ouais, je comprends la situation. Et ensuite, j'ai l'entraînement. Le bon Dieu me donne l'élan, la force. Ouais, une fois que j'ai compris la situation, où est mon devoir, etc., je vais sentir en moi ce courage, cette énergie, ça me la volonté. Pour éviter le mal et pour faire le bien. Ouais, c'est la définition de la grâce. La grâce actuelle. Chaque fois, tout au cours de la journée, autant d'actes j'ai à poser, chaque fois le bon Dieu intervient dans ma vie. Ouais. Il va éclairer mon intelligence, fortifier ma volonté pour que dans cette situation, j'évite le mal, je fasse le bien. Voilà la vraie définition, c'est extrêmement encourageant. Vous voyez, souvent dans nos sermons, on insiste beaucoup sur le péché, l'état du péché, etc., sur la force du démon. Bien sûr, et c'est très réel, il ne faut pas le sous-estimer. Mais il faut surtout parler, justement, de tout l'organisme spirituel, le bon Dieu, justement, en faisant de nous des enfants de Dieu par la grâce habituelle, il nous donne des aptitudes, des capacités, des facultés extraordinaires pour vivre en enfant de Dieu, dans la dignité, dans la pureté, dans la fidélité, etc. C'est là, le bon Dieu, toujours. Ouais. Alors, ensuite, qu'est-ce que dit le catéchisme? Pouvons-nous résister à la grâce de Dieu? Donc, le bon Dieu, chaque fois que le bon Dieu intervient et il me propose ce don, est-ce qu'on peut dire non, j'en veux pas? Le catéchisme répond oui, nous pouvons résister à la grâce de Dieu car elle ne détruit pas notre libre arbitre. Vous pourriez me citer des exemples dans l'Évangile où clairement on voit des gens qui ont résisté à la grâce de Dieu. J'en vois au moins deux. Judas. Quand Judas vient au jardin des Oliviers pour embrasser notre Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur Jésus-Christ ne va pas le laisser faire sans lui faire réfléchir. La grâce actuelle de Judas. Mon ami Amice, Adquid Vinisti. Mon ami, pourquoi tu es venu là? C'est par un baiser que tu vas trahir le Fils de l'homme. La grâce actuelle. Eh bien, Judas dit non. Il va se damner. Résister à la grâce de Dieu, c'est possible. Parce que le bon Dieu ne s'impose pas. Vous voyez, souvent, nous, on a une manière un peu brutale, un peu violente, d'imposer notre secours, etc. Le bon Dieu respecte notre liberté. Il est toujours là à intervenir, mais on peut toujours lui dire non, j'en veux pas. J'ai au moins un deuxième exemple à vous citer, c'est le jeune homme riche, notre Seigneur. C'est le jeune homme qui a mené une vie très pure. Ouais, il dit, que dois-je faire pour aller au royaume des cieux? Ouais. Et notre Seigneur Jésus-Christ, eh bien, lui dit les commandements de Dieu. Et il dit, j'ai fait ça depuis ma jeunesse. Quel beau parcours. Et l'Évangile nous dit, Jésus le regarda et il l'aima. Et il l'aima. Eh bien, il te dit, si tu veux être parfait, alors viens, suis-moi. Viens, suis-moi. Tu as toujours fait les commandements de Dieu. Je t'appelle à beaucoup mieux, beaucoup plus beau. Et l'Évangile nous dit, il avait beaucoup de bien, il partit tristement et il le suit pas. Il a résisté à cette grâce. Et certains auteurs spirituels pensent que non seulement il a échoué à cette invitation de notre Seigneur Jésus-Christ, mais qu'il s'est damné. Bon, il peut en rajouter. Hein. C'est grave de résister à la grâce du bon Dieu. Ouais. Donc ça, c'est très important. La définition de la grâce actuelle, c'est un cadeau qui est proposé seulement. Le bon Dieu nous laisse libre. Ouais. Et nouvelle question du coup, c'est très 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 clair dans le catéchisme. Ouais. Et ensuite, le catéchisme dit, par nos seules forces pouvons-nous faire quelque chose pour la vie éternelle? Sans le secours de la grâce de Dieu, par nos seules forces, nous ne pouvons rien faire pour la grâce, pour sa vie éternelle. Ça veut dire que sans la grâce, si je n'ai pas ce secours de Dieu, ce don surnaturel, je ne fais rien pour mon salut. Je suis incapable de me sauver. Donc, ce n'est pas quelque chose de facultatif. Ce n'est pas une option, la grâce de Dieu. Mais notre Seigneur Jésus-Christ nous dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire pour le salut. Vous voyez, il y a des tas de gens qui ne prient pas et ils font beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Et même des fois admirables. Vous avez des gens qui n'ont aucune religion, mais qui sont des vrais professionnels. D'une conscience professionnelle incroyable, d'une compétence, d'un sérieux incroyable. Mais ça, ce n'est pas le salut éternel. On voit que par nos propres forces, on peut faire des choses admirables. Vous voyez, vous avez des gens qui éduquent leurs enfants avec une certaine droiture, vraiment, naturellement. C'est des gens qui évitent. Mais au jour du salut, au jour de la mort, tout ça, ils ne demandent jamais, ils ne prient jamais le bon Dieu pour lui demander sa grâce. Qu'est-ce que ça vaudra au moment, vous voyez, de la mort? Ça, vous voyez, le catéchisme est très clair. Ouais. Par rapport à la grâce, ouais. Par nos seules forces pouvons-nous faire quelque chose pour la vie éternelle? Sans le secours de la grâce de Dieu, c'est celle-là. Ouais. Sans le secours de la grâce actuelle, nous ne pouvons rien faire pour le salut éternel. Nous ne pouvons pas être sauvés en salut éternel. Alors, vous voyez, c'est une notion, d'abord le catéchisme, qui me donne les notions claires, etc. Mais on dit, mais l'Église m'enseigne ça. Mais d'où elle sort ça, l'Église? Ce que l'Église qui affirme d'une manière magistrale, doctorale, etc. Elle sort ça d'où? Mais elle sort ça de l'Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors voilà, deuxième démarche, par rapport à la grâce, une fois que j'ai bien compris ce que me dit le catéchisme, je vais chercher dans l'Évangile comment ça se passe. Mais là, c'est d'une manière vivante. Comment Jésus, vous voyez, dans la manière de traiter les âmes, parce que c'est quoi la grâce, ce don surnaturel? Eh bien, c'est Jésus qui se donne à moi. C'est ça, évidemment. C'est ça, essentiellement. Donc, je vais trouver dans l'Évangile des passages où je vois cette grâce à travers une personne. C'est une personne qui m'aime. Ce don surnaturel qui illumine mon esprit, qui meut ma volonté, c'est une personne, c'est Jésus Sauveur, c'est l'Évangile. Alors, je vous donne comme exemple Alors prenons une scène de l'évangile où on va voir Jésus intervenir sur une âme. Ouais. C'est l'évangile de Zachée. L'évangile de Zachée, chapitre 19, verset 1. Cet évangile, vous le trouvez dans le missel, c'est l'évangile de la dédicace d'une église. C'est très beau. L'église, c'est quoi? C'est ce temple de Dieu, ce temple qui reçoit la présence de Dieu. Une des plus belles réalités. Eh bien, moi, je suis ce temple de Dieu. Le bon Dieu veut me transformer en ce temple. Il veut faire de moi sa demeure. C'est Jésus qui a dit, « Celui qui écoute ma parole et qui la met en pratique, mon Père l'aimera. Et nous viendrons en lui et nous ferons en lui notre demeure. » La présence de Dieu. Eh bien, la dédicace d'une église, c'est l'évangile de Zachée. Qu'est-ce qui est arrivé à cet homme? Lisons l'évangile. Là, nous voyons la grâce actuelle à l'action. Vous voyez, nous voyons... j'ai oublié de le marquer. Vous voyez, nous voyons dans l'évangile de Zachée le don de Dieu. Voyez, le don de Dieu. Mais nous voyons aussi la réponse de l'homme. L'homme peut résister ou bien être fidèle. La réponse de l'homme. Ouais. La grâce de Dieu, c'est ça. Vous voyez, on ne se sauve qu'avec le secours de Dieu, mais avec notre collaboration aussi. Il faut que l'homme coopère à la grâce de Dieu. Cette réponse de l'homme au don de Dieu, il est indispensable. Et quelle est la mesure? Eh bien, Bossuet, il a cette belle formule, il dit, c'est les deux bouts de la chaîne. Je ne sais pas tellement comment ça s'accorde l'un et l'autre. Oui. Celui qui est sauvé, est-ce que c'est surtout le don de Dieu? Est-ce que c'est surtout sa collaboration? C'est l'un et l'autre. Ouais. Ouais. Et vous avez cette formule aussi. Ouais. Pour se sauver, il faut prier Dieu comme si tout dépendait de lui. C'est le don de Dieu. Mais il faut tout faire comme si tout dépendait de nous. La grâce de Dieu, c'est ça. C'est ce secours qui va m'aider, mais qui ne se substitue pas à moi. Le bon Dieu qui me donne son secours, il ne va pas me remplacer en me disant « Il suffit d'être passif et de laisser faire. Tu regardes, ouais, et puis tu admires, tu applaudis. Ma cache !» Non, non, il va falloir, voilà. Ouais. Alors dans Zachée, c'est ça. Ouais. Vous avez le don de Dieu et vous avez la réponse de l'homme. Alors, eh bien, lisons l'évangile. Ouais, j'invente rien, je ne suis pas en train de broder hein, et de faire du cinéma, là. Ouais. Prenons le texte. Alors, notre Seigneur Jésus-Christ, justement, il a voulu prendre des exemples extrêmes, des gens qui, par leur situation, peut-être par leur péché, malheureusement, s'étaient complètement éloignés du salut. Vous voyez, quand vous avez la Samaritaine, cinq bons hommes, c'est quand même pas... Aujourd'hui, on fait beaucoup mieux. On est quand même dans les records, quoi. Cinq, elle est à son sixième. Bon, alors, vous avez la Samaritaine, Marie-Madeleine, sept démons, possédée de sept démons. Enfin, c'est quand même là aussi, hein, on est dans une situation intéressante. Hein. Zachée, c'était un type aussi, vous voyez, qui n'avait rien pour rencontrer notre Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Ben, il l'a dit, c'était un grand pécheur. Hein. Jésus est entré dans Jéricho et traversé une ville. Survint un homme appelé Zachée, c'était le chef des collecteurs d'impôts. Ouais, donc non seulement juif, mais en plus collecteur d'impôts. Donc ce métier-là ne pouvait pas se pratiquer d'une manière honnête. C'est impossible. Il y a des métiers comme ça que vous ne pouvez pas... On ne peut pas les exercer honnêtement. Ben, celui-là en était un. Ouais, chez les juifs, ouais, les collecteurs d'impôts, publicains, etc., c'était les pécheurs publics qui n'avaient pas le droit d'entrer dans les synagogues. Vous voyez, ces gens-là, leurs paroles ne valaient rien. Si vous étiez au tribunal et que vous alliez chercher un Zachée, sa parole valait pas un clou. C'était vraiment le pécheur public, l'exclu. Hein. Donc, et en plus, il est non seulement collecteur d'impôts, mais le chef hein, des collecteurs d'impôts. C'était le chef des collecteurs d'impôts. Et d'ailleurs, une grosse fortune. Ouais. Donc il est dans un état, malheureusement, qui le met très loin de notre Seigneur. Mais, il cherchait à voir Jésus. Voilà, ça c'est la grâce. Ce désir de Jésus, ça c'est la grâce actuelle. Il n'a rien à faire. Ouais, il avait tout pour être heureux, etc. Mais il y a quelque chose qui le laissait insatisfait. Et quelque chose... Il avait entendu parler de ce Jésus et il avait cette envie de le... Ça, c'est la grâce actuelle, le désir. Ouais. C'est très admirable, vous voyez, de voir comment notre Seigneur Jésus-Christ, chaque fois qu'il convertit une âme, il suscite le désir. Par exemple, la Samaritaine, elle n'avait pas du tout envie de voir notre Seigneur Jésus-Christ. Pas du tout. Ouais. Et notre Seigneur Jésus-Christ exprime un désir. Donne-moi à boire. Ouais. Et donc, notre Seigneur Jésus-Christ s'humilie. C'est très beau de voir notre Seigneur Jésus-Christ dans une pécheresse. Il commence par lui dire... Alors, ordure, ça. Hein? Non! Et il lui parle, ouais, donne-moi à boire. Et elle le prend de très haut. Tiens, un homme qui me demande un service, ben, je vais en profiter. Hein? Tu devrais savoir qu'un juif, ça parle pas un samaritain. Elle en profite pour lui donner une leçon de savoir-vivre. Notre Seigneur Jésus-Christ aurait pu le prendre de très haut. Ah, tu veux faire la maline? Je vais te faire changer de registre. Hein? Une confession générale, ça c'est décapant. Hein? Et là, tu vas... Hein? Pas du tout! Ah, si tu savais celui qui te parle, alors c'est toi qui lui aurais demandé à boire et il t'aurait donné une eau avec laquelle tu n'aurais plus jamais soif. Il lui fait désirer. Ouais, notre Seigneur Jésus-Christ fait désirer. La grâce à cette femme. Et il va la convertir. Ça, c'est une leçon à retenir. Vous n'allez jamais sortir de quelqu'un du péché autrement que... Le désir, c'est ce qu'il y a de plus fondamental en l'homme. Vous voyez, un bon professeur, qu'est-ce que c'est qu'un bon professeur? Ce n'est pas celui qui est paré de diplôme. C'est celui qui excite chez les enfants le désir d'apprendre. Comment ça s'appelle chez un enfant? Un désir d'apprendre. Ça s'appelle la curiosité. Un bon prof, c'est ça. Ouais. Les élèves, ils arrivent avec l'œil glauque, aussi vif qu'un merle en frit, quoi, hein, quand ils sont à leur table d'école, ils en ont rien à foutre, à ficher hein, de la classe. Mais s'il y a un prof qui excite le désir, là, ils ont envie d'apprendre. C'est ça le bon pédagogue. Hein. Vous avez un médecin, quel est le bon médecin? Ben, c'est celui qui sait faire un bon diagnostic, qui sait les médecins. Mais c'est surtout quelqu'un qui excite chez le malade le désir de guérir. Comment ça s'appelle le désir de guérir? Ça s'appelle le moral. Ouais, c'est ça le plus important. Même si vous faites un bon diagnostic avec les meilleurs médicaments, si le malade est découragé, se laisse aller, etc., ça ne va pas aller. Il faut lui donner le moral. Ouais. Quand on va à table, pourquoi on va à table? Ouais. Eh bien, c'est parce qu'on a le désir. Hein, ça s'appelle comment le désir de manger? Ça s'appelle l'appétit. Si on n'avait pas le désir de manger, mais ce serait une vraie corvée, quoi. Il faut remplir le sac. Mais on a l'appétit, le désir de manger. Ouais. Quand vous allez voir le Tour de France, etc., qu'est-ce qui est intéressant? Pourquoi les gens regardent, si vous voulez, ces gens-là? Parce qu'ils ont le désir de gagner. Ça s'appelle quoi, ça? Ça s'appelle la compétition. Bon, il y a peut-être un petit peu de picouse, mais quand même, vous voyez que les gars, pour être sur le podium, là, etc. C'est ça, si vous voulez, un amateur qui fait de la bicyclette, vous n'allez pas le regarder longtemps. Hein. Voilà, parce que le gars, il n'a aucun désir de gagner. Hein. Ben, ça n'a aucun intérêt. Donc vous voyez que c'est ça le plus important, c'est le désir. Et notre Seigneur Jésus-Christ, vous voyez, pour nous sauver, il respecte notre psychologie. Rien ne se fait sans le désir. Les vrais désirs. C'est la première démarche. Eh bien, c'est ce que notre Seigneur Jésus-Christ lui donne. Lui donne le désir. La grâce actuelle, c'est d'abord ça. Et vous êtes revenu en retraite, je pense, vous avez un désir quelconque. Vous voyez, ce qui vous a fait sacrifier des jours de vacances, payer les frais, etc., laisser vos enfants, vos occupations, etc., en pleine vacances. Pourquoi vous êtes venu en retraite? Il y a un désir. Il y a une grâce actuelle qui vous a touché. Vous avez été capable de surmonter les obstacles, etc., il y a la grâce. Mais ça faisait longtemps qu'il avait le désir. Quelle va être la correspondance? Eh bien, vous voyez, les désirs qui n'aboutissent pas, et souvent le bon Dieu nous donne des désirs, des aspirations, vous voyez, on ne donne pas suite, c'est très dommage, parce qu'ils sont perdus. Le désir efficace, c'est celui qui est suivi d'une résolution. Ça faisait longtemps que Zachée avait envie, avait le désir de voir Jésus. Mais un jour, il se dit, je prends la résurrection. Alors, c'est l'évangile qui le dit, oui. Il désirait... j'ai perdu.
c'est bête, j'ai perdu là. C'est la messe, faudrait pas que je perde ça. C'est la dédicace d'une église, elle dit. Voilà, j'ai retrouvé ça. Voilà, dédicace d'une église. C'est 945, hein, si j'oublie la page, c'est possible.
Donc, il cherchait à voir Jésus, à voir qui était Jésus. Mais la foule l'en empêchait, car il était petite taille. Il y en a d'autres, hein. Alors, voilà, cet homme, oui, le désir rencontre toujours un obstacle. En même temps qu'on a le désir de bien faire, il y a toujours un obstacle. Donc, la réponse de l'homme, c'est la résolution. Je dis là, oui. Le voici donc qui court et grimpe sur un sycomore. Voilà la résolution efficace. Je ne me contente pas de velléité, de désir, de pieuses intentions, etc. Je prends une résolution. Voilà, je n'arrive pas à voir Jésus. Maintenant, je cours, et les auteurs spirituels nous disent c'est ça. Oui. Le fait de courir, oui, de sortir de la foule et monter dans le sycomore, c'est la prière. La prière nous fait sortir du monde et élève notre âme vers Dieu. Il se met en condition. Alors Jésus va lui donner une nouvelle grâce. Ouais. Là, vous voyez, il y a un va-et-vient. Ouais. Du moment qu'il a bien répondu à cette première grâce, il va y en avoir une deuxième. Jésus-Christ, quand il passe sous l'arbre, ouais. Alors lisons l'évangile. Arrivé à cet endroit, Jésus lève les yeux, l'aperçoit et l'appelle. Zachée, dépêche-toi de descendre, car c'est dans ta maison que je dois loger aujourd'hui. Magnifique. Odie in domo tua, o portet me manere. Festina. Vous voyez, notre Seigneur Jésus-Christ, là aussi c'est merveilleux. Il ne dit pas, ouais, espèce de voleur. Ah, t'es promis à l'enfer, toi. Tu vas devenir un tison de l'enfer et tu vas bien griller. Et non, notre Seigneur Jésus-Christ le menace pas, il lui fait une prière. Zachée, mon ami, ça fait trop longtemps que tu m'as laissé comme ça, trop longtemps que je te cherche. Descends vite, il faut qu'aujourd'hui je demeure chez toi. Je ne sais pas où habiter, je ne sais pas où loger, je ne sais pas où déjeuner. Il faut qu'aujourd'hui je demeure chez toi. Quelle belle invitation. Jésus lui l'appelle. Et bon Dieu, vous voyez, il faudrait que tous les matins, ouais, au lieu de se réveiller, casser le réveil d'abord parce que ça fait la deuxième fois qu'il sonne, etc. Hein, et puis dire, je vais avoir des enquiquinements d'abord, je vais sortir, il va y avoir du brouillard, la route va être bien glacée, le patron de mauvaise humeur, les clients qui m'enquiquinent, mes enfants qui braillent, voilà, la totale, quoi. Eh bien, au contraire, quand on se lève, il faudra avoir ça dans l'oreille. Aujourd'hui, il faut qu'aujourd'hui, je demeure chez toi. Voilà, là, c'est une journée de salut. Si je le veux, Jésus va habiter en moi. Il va être continuellement. Vous voyez, quand vous avez un grand personnage, un grand artiste, etc., ces gens-là vont vous faire un autographe, ils vont vous donner une signature, etc. Mais jamais ces gens-là vont dire, voilà, je vous prends vraiment comme un intime, je veux vraiment que vous viviez avec moi et je veux vous transmettre mon savoir. Eh bien, Jésus, c'est pas ça du tout. Jésus, au contraire, il demande que ça, à vivre avec nous, comme un ami, comme un médecin. Ouais. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Zachée tombe par la tête. Il doit se tromper, il doit y avoir quelqu'un derrière moi, quoi. Et c'est pas possible, ça ne s'adresse pas à moi. Pas du tout. Zachée descendit prestement et le reçut avec joie. C'est très important. L'accueil. Ouais. Il dégringole de la festinance des chandit. Et accepit illum gaudens. Ça, c'est très important. Cette grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, je l'accueille vraiment avec toute ma ferveur, avec toute ma reconnaissance. Ouais. Donc, Zachée dégringole de l'arbre et il l'a. Alors, notre Seigneur Jésus-Christ va plus loin. Ouais, il va vraiment. C'est non seulement une appel, mais notre Seigneur va déjeuner avec lui. Il va déjeuner avec lui. Il prend dans un repas, ouais, notre Seigneur Jésus-Christ. Ouais. Cette visite souleva partout des critiques. On disait, le voilà qui se fait héberger par un pécheur. Même peut-être les apôtres. C'est indigne, s'il était vraiment le Messie. Et le Messie qui va chez cette saleté, chez ce pécheur, etc. La présence de Jésus. Ouais. Il faut qu'aujourd'hui je demeure. Il ne dit pas, je dois te visiter, je dois te rendre visite. Je suis, notre Seigneur Jésus-Christ ne nous demande pas de passer chez lui. Je veux habiter chez toi, demeurer chez toi. Notre Seigneur Jésus-Christ reviendra souvent dans l'Évangile. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. C'est vraiment la grande prière de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ça la retraite. Mais vous pouvez comment Jésus. Oui. Et alors, Zachée se rend bien compte. Il dit, la réponse de notre Seigneur, la réponse de Zachée avec la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Zachée se dit, je suis dans le péché. Je ne peux pas en même temps, c'est impossible, nul ne peut servir de maître. Je ne peux pas en même temps à jouir de la présence de Jésus, de l'habitation de Jésus en moi et rester attaché au péché. Je dois faire un choix. Eh bien, nous aussi, quand on va communier, on doit toujours voir qu'est-ce qui fait obstacle à la présence de Jésus. La communion est toujours un engagement à ce dégagement du péché. Jusqu'à notre mort, nous aurons enlevé. Et il se dit, pour moi, l'empêchement, c'est l'attachement à l'argent. Il avait le portefeuille bien coincé par là. T'es un juif, collecteur d'impôts, etc. Et il dit, il n'y a rien à faire. Je fais un choix. Soit je reste attaché à l'argent et Jésus ne va pas rester avec moi. Soit je veux garder Jésus avec moi et je renonce à l'argent. Alors, je le fais tout de suite. Oui, notre Seigneur Jésus-Christ n'a pas dit à Zachée, écoute, je veux bien prendre le repas avec toi, mais t'as pas un coin sombre là, je vois qu'il y a tous tes amis, etc. On peut aller dans un coin particulier, tu vas faire une confession générale d'abord. Pas du tout. Notre Seigneur Jésus-Christ est là. Oui, et il mange agréablement, notre Seigneur Jésus-Christ converse, oui, convivialement. Et c'est Zachée qui se lève devant ses amis, tout ça. Et dit, aujourd'hui, je donne la moitié de mes biens aux pauvres. Et si j'ai fait quelque tort à quelqu'un, je rends quatre fois plus. Et il prend sa résolution en public. Il veut que tout le monde soit au courant. Vous pensez qu'à peine le repas était fini, que devant sa porte d'entrée, il y avait toute une... T'as dit, la moitié de tes biens, donne-moi le quart, ça m'ira pas mal. Quatre fois plus, deux fois plus, ça m'ira. C'est magnifique. Ouais. La rupture avec le péché, la rupture avec le mal. On ne peut pas en même temps garder la présence de Jésus et rester. Alors pour lui, c'était le mal de l'argent, pour Judas aussi. Ouais. Je dois toujours me poser la question, si je veux Jésus habiter, ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus-Christ qui vit en moi. Qu'est-ce que je dois changer dans ma vie pour que Jésus règne en moi? Ça, c'est la grande question fondamentale de la retraite. Ouais. Alors, eh bien, il a parfaitement répondu, vous voyez, à cette présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce que Jésus peut donner de plus? Eh bien, à peine cet homme avait pris cet engagement incroyable. Vous voyez, il faudrait qu'en sortant de confession, vous alliez trouver votre mari, etc. Et dire, voilà, hein. Donne la moitié de mes biens aux pauvres. Alors, faites la transposition pour vous. Ouais. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faudrait qu'il y ait des témoins. Vous comprenez? Quand on arrive au confessionnal d'abord derrière les grilles, avec un masque, etc., hein, que surtout on ne me reconnaisse pas, etc., ça ne coûte pas cher. Vous comprenez? Prendre des résolutions, personne n'est au courant. Et non, lui, c'est en public. Alors, qu'est-ce qui va se faire? Eh bien, continuons l'évangile. Ouais. Quand Zachée, debout devant Jésus, lui dit, Seigneur, je vais donner aux pauvres la moitié de ma fortune. Et si j'ai volé quelqu'un, je lui rendrai quatre fois plus. Alors Jésus, dit alors, aujourd'hui, le salut est rentré dans cette maison. Aujourd'hui, le salut est arrivé pour cette maison. Zachée, lui aussi, est un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver celui qui était perdu. Il est justifié. C'est-à-dire que notre Seigneur Jésus-Christ non seulement est présent avec cet homme, mais il en a fait un juste, il en a fait un saint. Il l'a débarrassé de son péché, il l'a justifié. Notre Seigneur Jésus-Christ dit pas à Zachée, Bon, c'est très beau ce que tu viens de faire. Tu pourrais commencer à sortir là, hein, et distribuer. Non, 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 il n'attend pas. C'est immédiat. Aujourd'hui, cet homme est justifié. Ce n'est plus un pécheur. Et je trouve ça admirable. Vous voyez, la Sainte Marie-Madeleine, c'était toute une vie de péché. Elle était pécheresse, notre Seigneur Jésus-Christ. Elle vient au pied de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ lui dit, tes péchés te sont pardonnés. Va en paix. Ta foi t'a sauvé. Que c'est beau, ça. Que c'est beau. Si ma démarche est sincère, etc. La réponse de notre Seigneur Jésus-Christ est extraordinaire. Extraordinaire. Ouais. Le larron, il a passé son temps à voler, cet homme-là. Et sur la croix, c'est ce qu'il continue à faire. On a envie de dire à notre Seigneur Jésus-Christ, méfiez-vous, il va vous avoir. Ouais. Il a volé le paradis, ce gars-là. Ouais. Et notre Seigneur Jésus-Christ s'est laissé faire. Ouais. Souvenez-vous de moi. Il dit, pour moi, c'est justice. Je suis vraiment une ordure, ils avaient bien fait de me crucifier. Il n'y a pas meilleur moyen que la peine de mort, hein, pour empêcher la nuisance de ces... Et j'en suis un, vous avez bien fait. Mais lui, quel mal a-t-il fait? Vous êtes des assassins, enfin. Alors souvenez-vous de moi quand vous serez dans votre paradis. Je sais qu'en apparence, vous allez mourir, mais vous êtes le maître de la vie et de la mort. Vous allez vous ressusciter, vous allez me ressusciter. Et en plus, vous êtes le Sacré-Cœur, ce bonheur dans lequel vous allez rentrer. Vous êtes, je vous demande vraiment de me le faire partager. Notre Seigneur Jésus-Christ aurait pu dire, écoute, larron, t'as pas eu beaucoup de catéchisme, tu devrais savoir quand contre l'enfer que tu viens de dire d'avoir mérité, et puis le ciel que tu es en train de demander, il y a le purgatoire. Et pour toi, ça va quand même être salé, hein. Il lui dit pour ça, aujourd'hui même, tu seras avec moi en paradis. Aujourd'hui même, tu seras. Ça, j'aime ça. Vous voyez, quand vous allez vous confesser, ne vous laissez pas impressionner par le prêtre qui est là, peut-être un petit peu en train de sommeiller, en fait, sans kikiner en tout cas. C'est pas le prêtre, ça, c'est que l'adventure. Vous voyez, quand vous faites une vraie confession, c'est vraiment Jésus qui vous dit, aujourd'hui, le salut est rentré dans ton cœur. C'est tellement important. Alors, comment sacher, vous voyez, ce don de la justice, il est justifié. Oui, notre Seigneur Jésus-Christ. Sainte Marie-Madeleine n'est plus une pécheresse. Il la donne en exemple à Simon le pharisien. Tu méprises cette femme. Eh bien, regarde ce qu'elle a fait. Tu sais bien que quand on reçoit quelqu'un, il y a toutes des marques d'estime, de considération. Tu sais bien que quand on reçoit quelqu'un, on lui lave les pieds d'abord. Eh bien, toi, tu ne l'as pas fait. Tu m'as invité, mais en même temps, tu m'as offensé. Eh bien, regarde cette femme. Tu la méprises comme une pécheresse. N'empêche que elle m'a lavé les pieds. Tu sais bien aussi que quand on reçoit quelqu'un, on lui donne le baiser d'accueil, etc. Toi, tu ne m'as pas baisé. Mais par contre, cette femme, elle me baise les pieds. Et puis, tu sais aussi que la troisième manière de manifester la considération pour un autre, c'est de lui donner du parfum. Toi, tu ne m'as pas non plus donné de parfum. Eh bien, regarde cette femme. Oui, je trouve ça magnifique. Marie-Madeleine n'est plus une pécheresse. Elle est remplie de la grâce de Dieu. Et elle s'humilie au pied de notre Seigneur Jésus-Christ. Eh bien, il l'exalte. Il la donne en exemple. Ça, c'est merveilleux. Oui. Le salut est rentré dans cette maison. C'est ça, la grâce actuelle. Oui. Alors, comment Zachée va faire, oui, pour répondre à ça? Eh bien, l'exemple. Il va dire, c'est pas possible. J'ai un si grand bonheur de posséder cette présence de Jésus, d'être justifié. Il faut que je le fasse partager. Et ça, je trouve merveilleux. La Samaritaine, qui était une pécheresse, l'Évangile nous dit qu'à peine elle se sent purifiée par Jésus, elle court dans son pays, elle amène les gens. Elle amène les gens à Jésus. Vous voyez, si on a vraiment la justification, alors vraiment on devient apôtre missionnaire. Si on n'est pas missionnaire, etc., c'est qu'on n'a pas vraiment, vous voyez, cette reconnaissance du don de Dieu. Vous voyez, le larron, il dit à l'autre larron, l'autre larron qui malheureusement, on dit qu'il blasphémait, il demandait, descends de la croix et puis délivre-nous avec toi. L'Évangile dit, il blasphémait, c'était une mauvaise prière. Alors l'autre larron cherche à le convaincre, à dire, mais non, tu n'as pas le droit de dire ça. Parce que nous sommes pécheurs. Mais lui, il est innocent. Ouais. Mais lui, quel mal a-t-il fait? Vous voyez, ça, c'est le signe que j'ai vraiment reçu la grâce de Dieu si je deviens apôtre et missionnaire. Ça, c'est vraiment ça. Je partage cette grâce, je cherche à diffuser. Le bien est diffusif de soi. C'est la réponse de l'homme. Voilà, vous avez la grâce actuelle, d'une manière magnifique. Alors vous voyez comment les deux se complètent admirablement. Il suffit pas, vous voyez, de connaître d'une manière abstraite, théorique, vous voyez, ce qu'est la grâce de Dieu. Mais c'est indispensable, ça, ça donne des notions claires. Il faut la grâce, eh bien, vivante, à travers Jésus-Christ. Cette grâce qui me touche, cette grâce qui m'enthousiasme. Alors, j'ai pas le temps de le faire, vous voyez, mais... Vous voyez, quand j'ai une notion particulière, la grâce, je dois d'abord voir le catéchisme, ce que me donne le catéchisme. Ensuite, je dois voir l'évangile, comment cette grâce, elle est personnifiée à travers notre Seigneur Jésus-Christ. Ensuite, je dois voir l'exemple, vous voyez, dans la vie des saints. Vous voyez, comment dans la vie des saints, je vois cette grâce agir. Vous voyez, chaque fois que je suis en situation. Alors, vous voyez, j'ai beaucoup apprécié, conseil, souvenir, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. C'est sa sœur religieuse qu'elle a formée, que Sainte Thérèse a formée, sa sœur. Hein. Eh bien, elle nous montre, vous voyez, qu'elle est dans des situations, vous voyez, où elle a eu besoin de la grâce de Dieu. Vous voyez, ça c'est très important, ça m'encourage beaucoup. Cette sainte, la plus grande sainte des temps modernes, elle dit depuis l'âge de 3 ans, elle n'a jamais rien refusé au bon Dieu. Ben, n'empêche qu'elle a eu des combats à livrer. Et ça, ça m'encourage beaucoup. J'aime lire ça dans la vie des saints. Vous voyez, par exemple, je vous ai pris 4 exemples, je n'aurai pas le temps de le faire. Alors, c'est Conseils et souvenirs, Histoire d'une âme. Hein. J'ai 4 exemples, voyez, à vous donner, où on voit, voyez, comment, dans une situation particulière, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, elle a eu besoin de la grâce de Dieu. Si elle n'avait pas eu le secours de Dieu, ça aurait été trop dur pour sa nature. Et elle aurait très bien pu succomber à la tentation. Alors, je vous donne des exemples. C'est ça que j'aime voir dans la vie. Parce que ça, c'est la réalité. Les saints qui vont au-devant des tentations et puis tous les obstacles se plient devant eux, ouais, moi, ça ne m'aide pas du tout. Ouais. Quand j'ai le curé d'Ars, vous voyez, quand j'ai dans la vie du curé d'Ars, il était bébé. Sa mère veut le nourrir, etc. Il prend pas le biberon, ou je sais pas, il est malade. Ouais. Elle s'étonne, etc. Puis elle dit tout d'un coup, oh, j'ai oublié de dire bénédicité. Bon, ben, je ferme le livre, moi. Je me sens pas du tout dans cette gamme-là, vous comprenez. Le bébé qui refuse de manger parce que sa mère a oublié de bénédicité, arrêtons. Moi, je suis plus dans cette gamme-là. Je me sens pas du tout, ouais. Ouais. Alors, au contraire, vous voyez, quand je vois les apôtres, vous voyez, les apôtres, qui notre Seigneur Jésus-Christ les envoie en mission. Et là, ils se font mal recevoir, ils sont rejetés, etc. Et ils sont très vexés. Alors ils arrivent à notre Seigneur Jésus-Christ et ils disent, Seigneur, vous pouvez nous donner le pouvoir de leur envoyer le feu du ciel. Voilà, comme méthode d'apostolat, le lance-flamme, les gars. Là, je me retourne. C'est pas le Karcher, hein. C'est le lance-flamme. Ces gars-là, hein, ils se sont permis de refuser la bonne parole. Allez, hein. Je les transforme en cendres. Là, je me retrouve, si vous voulez. Hein. Oh, ouais, ça me paraît sympathique. Là, je me sens bien, si vous voulez. Je suis dans la ligne des apôtres, là. Ou notre, oui, les apôtres qui... Il y a des mamans qui amènent les enfants, etc. Et les apôtres qui chassent les gosses, etc. Notre Seigneur Jésus-Christ est indigné. Mais laissez venir à moi les petits-enfants. Ou bien notre Seigneur Jésus-Christ qui rétablit la loi du mariage. Un seul homme avec une seule femme. Oh ! L'Évangile nous dit, les apôtres qui disent, ah ben si c'est ça la condition de l'homme, si l'homme ne peut pas changer de femme, alors, mieux vaut pas se marier. Bravo, les gars, hein. Vous appréciez, hein. Voilà la délicatesse des apôtres, hein. Ah, bravo, hein. Si on peut pas changer de femme. Puis alors, il suffisait de faire un label, un libelle, de répudiation, c'est-à-dire une sauce tournée, si vous voulez, une soupe trop salée, etc. Tu dégages, toi, voilà. Alors, on change de femme. Ouais. Eh ben non, désormais, ça sera un seul... Alors, dans ce cas-là, on se marie plus. Voilà, là on est bien dans la même gamme, il n'y a plus aucun problème si vous voulez. Alors moi j'aime ça, vous voyez, dans Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, elle a eu besoin de la grâce de Dieu. Alors, ben, je vous cite un exemple, le piège des ça me plaît beaucoup, des fleurs artificielles. Vous avez ça, donc, conseil sous page 97. Excellent. Alors voilà. Une fois qu'elle voulait m'engager à pratiquer la charité, elle me raconta, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, elle raconte à sa sœur qu'étant novice et mettant son bonheur à parer la statue de l'Enfant Jésus du Croix, Elle se priva toujours d'y mettre des fleurs odorantes, même une petite violette, parce que les parfums incommodaient une des sœurs anciennes. Eh oui, dans les Carmels, vous avez quand même des gens un peu compliqués. Hein. Donc, on ne peut jamais mettre une fleur parce que l'autre, elle a des allergies. Quoi. C'est quand même pesant, quoi. Et c'est jusqu'à la mort qu'on doit avoir ce gars. Celle-ci, l'ayant vu placer une belle rose, donc la sœur ancienne, voit Sainte Thérèse placer une belle rose au pied de la statue, l'appela avec l'intention évidente de la lui faire retirer. Tu me dégages ça, à la sœur ancienne, etc. La fleur, tu me dégages ça. À ce moment-là, me dit Sainte Thérèse, devinant sa méprise, parce que c'était une sœur, une fleur artificielle, ouais, j'éprouvais un vif désir, ah ça j'aime ça, j'éprouvais un vif désir de lui laisser constater son erreur. Eh bien, dommage, ma bonne sœur. C'est une fleur artificielle. Ouais. T'as compris maintenant que ça se passe là, ton truc. Ouais. J'aime ça, j'éprouvais un vif désir de lui laisser... C'est le bon piège, ça, c'est le bon plan. Puis c'est le genre de truc que vous allez pouvoir réutiliser. Une autre fois, etc. Oui, c'est comme l'odeur des fleurs artificielles, ma sœur. Et pas, tu prends ça. Et ça vaut à tous les coups. L'autre, elle en a plein les dents, hein, chaque fois. Là. J'éprouvais un vif désir. J'aime ça. Voilà. Ouais. Et c'était quand même l'occasion rêvée, surtout. C'est vraiment des trucs où il ne faut pas rater le coup, quoi. Donc j'éprouvais un vif désir de lui faire constater son erreur, car la rose est artificielle. Mais Jésus m'avait demandé le sacrifice de ce petit triomphe. Belle victoire. Prévenant toute réflexion, je pris la fleur avant que la sœur ait eu le temps de lui dire « Tu me dégages ça ?» Je vais vers lui. « Voyez ma mère, comme on imite bien la nature !» Aujourd'hui, ne dirait-on pas que cette fleur vient d'être cueillie dans le jardin? C'est vraiment une fleur artificielle, quoi. Et l'autre n'aura pas eu le temps, évidemment, de faire sa réflexion complètement déplacée. Ça, j'aime ça. Voilà la grâce. Voilà la grâce actuelle. Ouais, parce que naturellement, c'était trop, trop difficile de rater une si belle occasion, quoi. De bien la planter, là. Ah, ouais. Ça fait 10 ans que je cherche l'occasion. Eh ben non, eh ben non. Et vous en avez, ouais, à l'appel, ouais. Donc là, dans les manuscrits autobiographiques. Ouais. L'antipathie naturelle, ça existe. Vous voyez, la plus grande sainte des temps modernes. Ouais. Il se trouve dans la communauté une sœur qui a le talent de me déplaire en toutes choses. Ça fait beaucoup, hein. C'est ça l'antipathie naturelle. Et c'est incroyable comment ça peut venir en nous. Quelquefois pour un confrère, pour un prêtre, quelqu'un que j'apprécie, puis tout d'un coup je ne peux plus le sentir. Et vous avez des aveux de conjoints, mari et femme, il arrive un jour où il peut vraiment avoir une antipathie entre parents et enfants. Ouais. Des antipathies naturelles, le démon est très fort. Ouais. Donc elle pouvait, tout ce que faisait cette sœur lui était désagréable. Ouais. Ses paroles... En toute chose, ses manières, ses paroles, son caractère me paraissaient très désagréables. Cependant, c'est une sainte religieuse. Qui doit être très agréable. Oui, c'est du conditionnel, tout ça. Aussi, ça devait être une belle enquiquinante. Hein. Aussi, ne voulant pas céder à l'antipathie naturelle que j'éprouvais, je me dis que la charité ne devait pas consister dans les sentiments, mais dans les œuvres. Alors, voilà la grâce actuelle. Le triomphe sur la... Ouais. Elle ne supportait pas cette sœur, ni dans ses manières, ni dans son comportement, etc. Tout lui était désagréable, c'est ça l'antipathie. Et c'est très fort, c'est quelque chose qui vous ronge, qui vous détruit. Eh bien, il y a la grâce. Oui, écoutez bien, vous voyez comment la grâce actuelle a triomphé. Alors, je me suis appliqué à faire pour cette sœur ce que j'aurais fait pour la personne que j'aime le plus. À chaque fois que je la rencontrais, je priais le bon Dieu pour elle, lui offrant toutes ses vertus et ses mérites. Je sentais bien que cela faisait plaisir à Jésus, car il n'est pas d'artiste qui n'aime à recevoir des louanges de ses... Ouais. Je ne me contentais pas de prier beaucoup pour la sœur qui me donnait tant de combats, c'était très difficile de supporter cette personne. Ouais. Je tâchais de lui rendre tous les services possibles. Et quand j'avais la tentation de lui répondre d'une façon désagréable, je me contentais de lui faire mon plus aimable sourire. Je tâchais de détourner la conversation, car il est dit dans l'imitation, il vaut mieux laisser chacun dans son sentiment. Souvent aussi, lorsque je n'étais pas en récréation, et qu'en ayant quelques rapports d'emploi avec cette sœur, lorsque mes combats étaient trop violents, je m'enfuyais comme un déserteur. Il y a des fois, cette antipathie était tellement forte qu'elle était obligée de fuir. Ça, c'est du réalisme. Oui. Oui. Vous voyez, donc j'ai une antipathie naturelle, et voilà, vous voyez, si je cède, et dans une communauté, c'est ça, les communautés religieuses, entre prêtres, vous avez des gens qui se traitent comme des adversaires, comme des ennemis, vous avez dans des foyers, et à travers des enfants, etc., quelqu'un qui n'a pas dominé une antipathie naturelle, mais c'est l'enfer en communauté. Donc on n'a pas le choix. Ouais. Soit je domine avec la grâce l'antipathie naturelle, et vous voyez que c'est pas rien, hein. Elle a prié pour cette sœur. Vous voyez, elle lui rendait tous les services possibles. Elle lui souriait, mais quelquefois elle fuyait aussi. Il faut tous ses moyens. Il faut beaucoup de moyens. Ouais. Elle dit bien qu'elle avait des combats très violents, très forts. Ouais. Elle a vraiment besoin de la grâce du bon Dieu. Alors ça, c'est beau, vous voyez, il ne suffit pas d'avoir le catéchisme qui nous explique, vous voyez, qui nous explique comment ça se passe. Il ne suffit pas d'avoir l'évangile. Il faut que ce soit des expériences vécues. Il faut voir que même les saints, ils ont besoin de cette grâce-là. Ils n'auraient pas à résister, etc. Et puis, la quatrième chose, ben, je ne veux pas développer, vous voyez, mais... Vous voyez, c'est la prière de la liturgie. Ben, la liturgie, c'est exactement ça. Quand vous reprenez, vous voyez, je vous ai remis ici l'office des complis. Constamment dans les complis, vous voyez, cette réalité, sans le salut, on ne peut rien faire. Eh bien, qu'est-ce que c'est que la prière ? C'est demander constamment ce secours au bon Dieu. Il suffit de demander, vous recevrez, etc. Lisez les complis. Constamment, je dis, Seigneur, venez à mon secours. C'est la nuit, c'est les ténèbres. Je sens que les démons, là, sont déchaînés, etc. Secourez-moi. Les complices, c'est le sommeil, ça me prépare à la mort. Combien je crains la mort ? Bien, Seigneur, préparez-moi à cette heure-là. Vous voyez ? Alors voilà, vous voyez, chaque fois que vous avez une réalité, vous devez aller chaque fois à ces quatre points. Que me dit le catéchisme ? Comment c'est vécu dans l'évangile ? Ensuite, comment les saints ont... moi aussi, je suis appelé à la sainteté. Il n'y a pas plusieurs degrés de chrétiens, d'enfants de Dieu. Il n'y a pas l'enfant de Dieu de première classe, deuxième classe, etc. Ça n'existe pas. Je dois devenir un saint aussi. Bon Dieu doit me donner les mêmes secours. Je vois que Sainte Thérèse, elle a combattu. Elle a eu besoin de la grâce de Dieu. Elle avait vraiment le vif désir d'enquiquiner de cette sœur et puis vraiment de la terrasser. Ouais, et puis de... Et puis comment ? Oui, l'exemple des saints. Et comment la liturgie, eh bien, ce secours de Dieu, eh bien, à travers la prière de l'Église, constamment, l'Église me met dans les dispositions pour recevoir cette grâce de Dieu, pour la solliciter. L'Église me donne des formules magiques, le bon Dieu ne pourra pas résister. Et elle me donne une éloquence, elle me donne une capacité de toucher le cœur de Dieu. Il ne pourra pas me refuser la moindre grâce, le moindre secours. Et c'est dit d'une manière magnifique. Oui, je terminerai simplement sur la liturgie. Vous voyez, notre Seigneur, dans le sacrement, l'extrême onction, c'est le moment le plus difficile où on est affaibli par la maladie, etc., la perspective de la mort, etc. Alors il y a le sacrement. La liturgie va m'inspirer tout ce qui est, les mots, l'expression qui va toucher le cœur du bon Dieu. Le prêtre, là, il a une formule, écoutez ça, oui. Seigneur, vous nous avez dit par votre apôtre Saint Jean, s'il y a un malade chez vous, qu'on fasse venir les prêtres de l'église et qu'ils prient sur lui et ils lui feront les onctions de l'huile du Seigneur. Le malade sera guéri si l'on prie avec foi. Seigneur, vous avez promis. Ben, c'est maintenant qu'il faut... vous avez fait des promesses. Voilà, eh ben, appliquez-les maintenant, Seigneur. C'est très beau, vous voyez, cette familiarité. Et puis ensuite, Ô notre Rédempteur, guérissez donc, nous vous en prions par la grâce du Saint-Esprit, la maladie dont souffre cet homme. Pansez ses blessures, pardonnez ses péchés, chassez tout ce qui peut se faire souffrir son corps et son âme. Rendez-lui par pitié la santé spirituelle et corporelle, afin que, guéri par votre bonté, il puisse se livrer à nouveau à ses occupations. Non, non, moi je veux pas que vous le guérissiez et qu'il se trouve sur une chaise roulante, hein. Non, non, je veux que vous le guérissiez et qu'il ait la pleine forme. Voilà, voilà comment l'Église, voyez, à travers la liturgie, nous fait demander ce secours de Dieu. Dans cette situation si difficile, si pénible, vous voyez, qu'est la maladie grave, la perspective de la mort, etc. Bien, l'Église nous fait prier. Donc, vous voyez, chaque fois que vous avez une notion particulière, faites toujours, vous voyez, ce quadruple démarche. Vous voyez, que dit le catéchisme, que me fait vivre l'Évangile, comment les saints ont vécu cette réalité et comment l'Église, dans la prière, me fait demander cette grâce de Dieu. On va aller à la chapelle pour quelques instants pour faire cette petite méditation.